On reviendra après aux autres livres que vous avez fait paraître avant le dernier, qui justement parle de l'inflation de l'archétype du masculin. Hein. Bon, alors on va parler de ce livre peut-être tout de suite. Donc il parle de l'inflation donc de l'archétype du masculin, qui fait croire, si j'ai bien compris, au moi, qu'il est le principe totalisant, en quelque sorte. Et dans ce livre, on apprend que Jung n'a pas échappé justement à cette inflation.
Oui, ce livre s'intitule « Psychanalyser Jung voilà. ». C'est-à-dire que là, je ne parle pas du masculin en général, mais j'en parle en situation. Et j'en parle à partir de l'expérience de vie de Jung. Et donc, psychanalyser Jung, eh bien, plusieurs de mes collègues et confrères étaient un peu gênés et choqués que, voilà, j'ai même entendu certaines personnes dire, mais pour qui se prend-il? Pour psychanalyser Jung. Et je pense que c'est important de psychanalyser Jung, comme on a psychanalysé Freud. Plusieurs héritiers de Freud se sont risqués à une psychanalyse du père de la psychanalyse. Mais dans le mouvement jungien, on s'est contenté de répéter les interprétations de Jung. On peut dire que dans le mouvement jungien, il y a une grande vénération du maître qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas repris à nouveau frais l'étude de la psychologie de Jung. Donc, ce livre vise à répondre à ce manque. Alors, il n'est pas iconoclaste, hein, moi je suis jungien, mais j'essaye de montrer que Jung s'est affronté à une sorte de crise latente, par moments aiguë, liée à sa petite enfance. Je montre, en m'appuyant sur beaucoup de documents biographiques, que Jung a très certainement subi un traumatisme de l'inceste, donc de l'abus, c'est-à-dire qu'il a justement été victime du masculin en inflation. Et comme chez beaucoup de victimes, ça a créé chez lui un double état, c'est-à-dire à la fois justement la blessure, l'humiliation d'avoir été réduit à un objet sexuel, mais aussi une certaine fascination de la puissance du sexe masculin. Et Jung a été pris entre les deux attitudes qu'on peut appeler la première déflation et la deuxième inflation, s'identifier à cette toute-puissance. Hein, il écrit d'ailleurs dans un de ses interviews que le persécuté devient facilement un persécuteur, c'est-à-dire l'incesté peut devenir un incesteur. Et Jung, particulièrement dans la première moitié de sa vie, a eu des moments où il a eu des attitudes d'abus, notamment sur ses clientes, mais aussi sur la façon qu'il avait de s'imposer dans son mouvement, qui était une façon assez unilatérale et peut-être même dictatoriale. Mais c'est quelque chose dont il s'est départi progressivement, mais grâce à ses rêves. Et donc ce livre, c'est la reprise de la contemplation de tous ses rêves et expériences intérieures. Et au départ, Jung ne comprend pas grand-chose à ses rêves, ou ce qu'il en comprend est très limité. Mais plus il avance, et de rêve en rêve, on voit d'ailleurs comment les rêves et les expériences intérieures fonctionnent comme en série. C'est vraiment un processus qui se déroule de rêve en rêve. Et l'élément fondamental, c'est que ce processus le mène à la découverte du centre intérieur de la psyché, qu'il va nommer le soi, qui est finalement le centre transcendant à l'intérieur de la psyché. L'autre, avec un grand A, du moi, qu'il s'agit de rencontrer, et cette rencontre est éminemment thérapeutique. Voilà, c'est cette aventure que je décris. Alors, c'est le premier tome qui se consacre à la première moitié de la vie de Jung, et le deuxième tome va suivre bientôt sur la seconde moitié de la vie de Jung.
Et alors justement, bon, le livre se lit très facilement, mais même si par certains aspects il est très technique aussi, notamment la définition du soi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Par contre, dans une seconde partie, donc, vous parlez d'aller vers l'alliance nécessaire avec l'archétype féminin du soi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous en avez déjà parlé d'ailleurs tout à l'heure, voilà. L'autre, hein, l'altérité. Oui.
La découverte du soi est une découverte fondamentale qui est jusqu'à aujourd'hui encore très peu comprise. était très peu connu parce que nous sommes toujours dans notre culture occidentale complètement dominés par une vision matérialiste qui ignore la transcendance. Elle est agissante et je la rencontre tous les jours, rien qu'en recueillant mes rêves le matin. Hein, parce que quand je rêve, je dors. Pour Jung, contrairement à Freud, ce n'est pas le moi qui fait les rêves. Il faut dire, je reçois un rêve. Et donc, il est très important de prendre le temps de contempler ce que nous recevons. Et c'est un message intérieur. Une fois, je me rappelle, au début de ma vie d'analyste, j'accompagnais une femme très croyante et qui commençait à étudier ses rêves, mais en fait, pour elle, c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était la lecture de la Bible. Mais ce qui a changé complètement son approche, c'est qu'elle a reçu justement un rêve où sur le lutrin, où traditionnellement il y avait sa Bible, hein, majestueuse, eh bien sur ce lutrin, il y avait son cahier de rêve. Ce qui montrait que le cahier de rêve est aussi sacré que la Bible, en fait. Puisque ce serait en quelque sorte le message du soi ou du Dieu intérieur pour elle personnellement. Le soi pour Jung, c'est le centre qui est en nous, l'union harmonieuse de tous nos contraires.
Il peut être confondu avec le Père dont parle Jésus justement.
Oui, d'ailleurs je fais ce lien dans mon petit livre sur le Notre Père. Oui, vous savez qu'en hébreu le mot Père signifie aussi la source, le mot Abba. Et en fait, nous sommes en contact avec cette source fondamentale de notre être, à travers les rêves. Alors, c'est vrai que c'est difficile à les comprendre parce que, justement, les rêves s'expriment en langage symbolique. Et donc, il est nécessaire de les contempler, il est nécessaire de prendre le temps de les étudier. Et en fait, c'est l'objet d'une analyse, justement, d'une psychanalyse, selon Jung. Et alors, le soi est cette union harmonieuse des contraires. C'est-à-dire que le soi réunit toutes les dimensions de notre être. Le masculin, le féminin, l'âme, le corps, la spiritualité, l'incarnation, la vie sociale, l'instinct. Le soi travaille à harmoniser toutes ces dimensions continuellement. C'est pourquoi il est essentiel d'ouvrir une relation à lui. Parce que Jung écrit dans un interview que, vous voyez, c'est comme si on s'adressait, en se mettant à étudier nos rêves, à un vieux sage qui aurait vécu des millions d'années et qui connaît toutes les expériences humaines et qui donc peut nous guider dans ce moment où, par exemple, nous sommes dans une impasse, où nous ne comprenons plus rien, où... Donc le soi est cet accompagnant intérieur. Je l'appelle dans mon dernier livre aussi le guérisseur intérieur. Et en fait, il est essentiel de l'accueillir et de le reconnaître, d'ouvrir cette relation avec ce centre. Alors il y a un court-circuitage qui est lorsque, notamment parce que c'est le grand poids de toute l'histoire de l'humanité, l'archétype masculin prend le pouvoir. C'est ce que j'appelle un coup d'état ontologique. Et donc là, nous ne sommes plus du tout dans la recherche de l'harmonie, mais au contraire, dans le creusement des crises, des violences, des... C'est pourquoi notre époque particulièrement est une époque où dans les rêves, il y a une insistance systématique sur la redécouverte de notre féminité intérieure, qu'on soit homme ou femme, hein. C'est-à-dire cette capacité d'accueillir l'autre. Parce que, en fait, le grand danger de cette inflation masculine, c'est qu'elle peut aller jusqu'à l'autodestruction de l'humanité sur la Terre. Elle est la cause de toutes les violences, de tous les abus, de tous les drames. Ben, vous voyez, un exemple typique d'un homme complètement bouffé par ce masculin en inflation, c'est ce monsieur Donald Trump qui vient d'être élu président des États-Unis, et c'est très inquiétant. Hein, parce qu'on assiste en ce moment justement à une sorte de tournant vers la violence de l'expression du moi et donc le dénigrement même de la relation à l'autre. Et donc, redécouvrir le féminin du soi, c'est parce que le soi travaille à recentrer justement ce masculin qui est devenu erratique et fou, à le remettre en relation avec la féminité. Et voilà, donc c'est un thème qu'on retrouve dans tous les rêves, en fait. Hein. C'est un thème très essentiel dans l'inconscient collectif de l'humanité aujourd'hui. Redécouvrir cette voie féminine de l'être.
Est-ce qu'il y a d'autres voies qui seraient possibles, en dehors de celle de l'étude des rêves, par exemple, pour toucher à cette féminité en soi et avoir cette forme de transcendance pour trouver le soi, justement, au quotidien ?
Le soi est partout. Pour Jung, le soi, c'est ce centre intérieur, éminemment personnel à chacun, c'est-à-dire il s'exprime de manière éminemment personnelle pour chacun, mais en réalité, c'est un centre fondamentalement transpersonnel. C'est le centre de l'inconscient collectif de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire il traverse tous les êtres. C'est très proche d'ailleurs de la vision du divin dans la Kabbale. Il traverse tous les êtres et il travaille aussi à faire se rencontrer différentes expériences, différentes identités. L'enjeu, c'est que l'humanité se différencie au lieu de rester coincée dans une identité. Parce que le masculin en inflation, c'est l'idolâtrie de l'identité. Nous sommes en ce moment très menacés par ce poison de l'idolâtrie de l'identité, hein, qui fait qu'on s'enferme sur soi, sur son groupe, sur son... et on n'est plus en communion avec l'ensemble de l'humanité. Alors on peut définir le soi de plusieurs façons. Ben, le soi, d'abord, c'est sûr que c'est le divin dans l'être humain. Mais donc, en fait, le soi est partout, puisqu'il est le cœur de la psyché humaine dans son ensemble. Hein. Donc le soi est partout, le soi est dans toutes les expériences intérieures, les expériences spirituelles, oui, les expériences artistiques. Hein, une extase artistique peut être une ouverture au soi. Alors, moi, je cible les rêves, pourquoi ? Parce que je suis un psychanalyste et un psychothérapeute. C'est-à-dire que le soi est partout, mais comme le soi est au cœur de l'inconscient, on n'a pas tellement de moyens de le rencontrer. On le rencontre pas au coin de la rue, par exemple. Et par contre, quand on s'intéresse au travail sur les rêves, là, nous sommes en relation directe avec le point de vue authentique du soi. Hein, les rêves sont le point de vue authentique du soi. Et donc je m'intéresse aux rêves parce que les rêves sont le lieu de la possibilité de faire une thérapie avec le soi, finalement. Une thérapie qui serait guidée par le soi, de l'intérieur. Alors la spécificité de Jung, finalement, c'est de considérer que, pour lui en tout cas, la vraie thérapie vient de l'intérieur. Elle n'est pas administrée de l'extérieur par un thérapeute. Le thérapeute est là pour faciliter la rencontre du rêveur avec ses rêves, mais il n'administre pas une thérapie par une sorte de méthode. La source de la thérapie, dans la voie jungienne, vient de l'intérieur.